RCF.
Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette quatrième saison de notre émission. Aujourd'hui, il sera question de gendarmerie et d'histoire militaire. Dans un instant, nous allons retrouver la rubrique de Jean-Luc Cottard, notre consultant. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Arnaud.
Ah, Jean-Luc et son air. Je m'attends encore au pire ce soir. Puis en deuxième partie d'émission, je recevrai notre invité du mois. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le colonel Fabrice Ars, commandant le groupement départemental de gendarmerie, ici en Indre-et-Loire. Et avant de commencer cette émission, je voulais m'excuser de l'absence de notre chroniqueur Thomas Ernaud, qui nous retrouvera bien sûr le mois prochain. On le salue.
Des forces et des hommes sur RCF. Un magazine au cœur de l'actualité militaire.
Bonsoir Jean-Luc Cottard.
Bonsoir.
Alors, cette rentrée, Jean-Luc, racontez-nous, je m'attends au pire ce soir, je l'ai dit à nos éditeurs. Comment allez-vous depuis 6 mois qu'on ne s'est pas vu?
Eh bien, écoutez, Arnaud, nous sommes le 8 septembre. Et le 8 septembre, c'est en 1855, c'est quoi?
La Crimée.
C'est la prise de la redoute de Malakoff pendant la campagne de Crimée. Bravo, Arnaud.
Merci. Alors, oui, alors, c'est pas là où le maréchal MacMahon a dit j'y suis, j'y reste?
Oh, quelle culture. Oui, MacMahon, celui qui va devenir le président de la République, de la nouvelle Troisième République.
Bon, alors, on avait décidé de parler gendarmerie, mais aussi histoire militaire. Alors, pourquoi on parle de MacMahon ce soir?
Parce que nous sommes le 8 septembre. Et surtout qu'en 2020, nous commémorons le 150e anniversaire de la guerre de 1870.
Oui, ça, j'avais fait la soustraction. Alors, en même temps... C'est pas aussi l'anniversaire du 80. Enfin, c'est pas le 80e anniversaire de 1940.
Ben non, oui, on s'y perd, oui, hein. Mais oui, c'est le 80e anniversaire, mais en même temps, 1870, on en parle peu et on s'aperçoit de plus en plus que cette guerre est la mère des guerres du 20e siècle.
Alors, pour nos auditeurs, Jean-Luc, rappelez-nous ce qu'est cette défaite de 1870. On va dire, on va appeler un chat. Hein.
Alors, d'un côté, il y a les Prussiens, de l'autre côté, il y a les Français.
Toujours les Allemands.
Les Prussiens, au départ, ce sont les Prussiens, et le roi de Prusse cherche à unifier les différents pays indépendants germaniques après avoir, à son propre profit, éliminé l'empereur austro-hongrois qui voulait faire la même chose, et il l'avait éliminé lors de la bataille de Sadova en 1866. Mais à ce moment-là, Napoléon III, qui était l'empereur des Français depuis 1852, et qui était aussi par ailleurs le premier président de la République française en 1848, Napoléon III, donc, n'est pas d'accord.
Ah.
Et pourquoi? Parce qu'il craint une puissance étrangère à la frontière orientale de la France. Et surtout, il sait qu'il y a des velléités d'implanter en Espagne un Hohenzollern, c'est-à-dire un roi prussien.
Oh là là.
Et donc, c'est la nouvelle menace de type Charles Quint contre François Ier. Mmh. Et Napoléon III n'en veut pas. Mais malheureusement, il ne sait pas que son armée présente des lacunes face à l'armée prussienne. Parce que l'armée prussienne, elle s'est battue contre l'excellente armée austro-hongroise, et lui, son armée, il sait qu'elle s'est battue au Mexique, elle s'est battue en Algérie, elle s'est battue en Chine, mais voilà. Et donc, il tente de réformer son armée avec le maréchal Niel, qui malheureusement meurt avant d'avoir achevé son travail, et donc ça pose des problèmes.
Et alors, donc on va où comme ça?
Eh ben, en 1870, Napoléon III envoie son ambassadeur, très diplomatiquement, expliquer que la France ne peut accepter d'avoir un Hohenzollern sur le trône à Madrid.
D'accord.
Et Guillaume de Prusse le conçoit très bien. Et donc, il renvoie l'ambassadeur de France en lui disant « pas de problème ». Mais pendant ce temps-là, le chancelier prussien, ce vilain Bismarck, qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit
« je vais saisir tout de suite cette opportunité pour que les Français prennent la mouche » et qu'ils se disent « Ah, les méchants Prussiens !» et qu'ils lui déclarent la guerre, et nous, on sera innocents. Et donc Bismarck envoie une dépêche qui s'appelle la dépêche d'Ems, au milieu de juillet 1870, qui provoque la colère des nationalistes français, très nombreux dans l'entourage de Napoléon III. Mmh. Et comme Napoléon III, bien que prudent, est très malade, il n'arrive pas à résister à son entourage, notamment à sa femme.
Et il déclare la guerre, alors.
Et il déclare la guerre le 19 juillet 1870.
Et voilà une défaite au compteur de l'armée française.
Eh oui, et pour reprendre une expression populaire, c'est même une pâtée et une belle.
Comme on dit chez moi, c'est même une branloute, c'est entre la branlée et la déroute, non?
C'est pas mal.
On est pas mal. Alors rapidement, pourquoi le soldat français n'a-t-il été pas bon sur cette guerre?
Si, le soldat français a prouvé au cours de cette guerre qu'il était courageux, rustique, endurant, et pendant tous les combats, que ce soit en Alsace ou ailleurs. Et en plus, il venait de toucher, peut-être justement, il venait juste de toucher, de percevoir le chassepot qu'il ne maîtrisait pas suffisamment.
Le chassepot, c'est le nouveau fusil de l'époque, hein, c'est ça.
Un fusil, ouais, qui avait des capacités de tir beaucoup plus longues et beaucoup plus performantes, notamment en matière de rechargement, que son équivalent allemand.
Est-ce qu'on est en train de quitter l'ère napoléonienne pour avoir une arme beaucoup plus offensive, au corps à corps ou,
Pratiquement. Mais en fait, les Français, eux, ne peuvent pas. La grande difficulté, c'est qu'en 1870, la guerre a été déclarée et l'armée française était dans les prémices de son évolution et n'était absolument pas prête.
Alors, qu'est-ce qui a pêché, vous, le spécialiste?
Eh bien, ce qui a pêché, c'est que rien n'était prêt.
D'accord.
Pas de vision stratégique, pas de plan. Napoléon III avait vaguement deux idées pour pénétrer en Allemagne, mais les généraux n'étaient pas au courant et donc ils ne pouvaient pas appliquer les ordres.
Alors, pendant cette guerre, on parle des boutons de guêtre, Jean-Luc. Alors, c'est quoi les boutons de guêtre cette guerre de 1870?
Vous savez ce que ce sont des guêtres?
Oui.
Les guêtres sont des parties qui viennent faire la jointure entre la
chaussure et le mollet.
Et le mollet et le pantalon, pour qu'en fait le pantalon ne flotte pas et qu'il n'y ait pas d'eau qui vienne dans la chaussure.
La fameuse guêtre blanche.
Voilà,
avec les
guêtres blanches ou marron ou noir.
Pour les spécialistes.
Et donc, il y a des boutons qui permettent de fermer ces guêtres.
Oui.
Et si on a tous les boutons de guêtre qui sont bons, qui sont présents, ça veut dire que l'armée est prête. Et donc, au cours d'une discussion à l'Assemblée nationale, le maréchal Lebeuf qui se fait agressé par Thiers...
Qui est ministre de la guerre. Lebeuf est ministre de la guerre à l'époque.
Lebeuf est ministre de la guerre, et Thiers est député, et Thiers dit « Nous ne sommes pas prêts pour faire la guerre », et Lebeuf dit « Nous sommes prêts, nous sommes archi-prêts ».
Ça me rappelle des choses, ça.
« La guerre dut-elle durer 2 ans, il ne manque pas un bouton de guêtre ».
Ah, c'est ça. Ah bah, visiblement, il en manquait, hein, sauf votre respect, hein. Mais, Jean-Luc.
Excusez-moi, peut-être qu'il en manquait pas, il avait peut-être raison, le maréchal Lebeuf. Mais, mais en fait, ce qui a manqué, c'est d'abord de la réflexion.
Ouais.
Le commandement français ne travaillait pas, c'était la furia francese, c'était le mythe de l'armée napoléonienne. Les officiers sont très très mal formés et le travail intellectuel est totalement dévalorisé.
Heureusement qu'ils nous entendent
plus. Et s'il ne manque pas de boutons de guêtre, il manque de cartes. Pendant la campagne d'Alsace qui va se dérouler à la fin du mois de juillet, les généraux vont chercher dans les écoles les cartes des écoles pour pouvoir savoir où ils sont, où se situent leurs troupes. C'est pour vous dire.
Alors, on est à l'an zéro du...
Aucune anticipation, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de coordination entre les armes. Mmh. Et puis le fantassin ne connaît rien à l'artillerie, la cavalerie vit dans le mythe des charges de la cavalerie lourde. Et le soldat n'est pas formé à prendre des initiatives, il est surtout dressé comme une mécanique. Et cette mécanique, dès qu'il y a un problème, elle bride.
Donc il ne faut pas avoir fait l'école de guerre, sauf votre respect, Jean-Luc. Il y a donc un problème d'adaptation.
Exactement.
Ouais.
Oui, le milieu du 19e siècle a été une période de profond bouleversement technologique. On l'a vu pendant la guerre de Sécession, on l'a vu pendant la guerre avec l'Autriche-Hongrie.
On est à la fin du 19e en même temps.
Le train est apparu comme un moyen de déplacement. S'il y a de nouveaux moyens de déplacement, il y a de nouveaux nœuds de communication. Donc la stratégie va devoir s'adapter pour déplacer les troupes, pour contrôler les mouvements de l'adversaire ou ses propres mouvements. Mmh. La France, à ce moment-là, a 3 fois moins de voies ferrées pour mobiliser que la Prusse. Aucun plan n'est prévu pour mobiliser l'armée française. Tout est prévu pour se concentrer sur des grands commandements comme le Tours, par exemple, hein, puisqu'on a l'hôtel de grand commandement à cette époque.
Ah, ça vient de là.
Et le commandement ne suit pas ces évolutions parce que il considère que en ayant la culture d'Austerlitz, il sait tout faire. Et
il a encore brillé le soleil.
On n'en tire pas les conclusions. Et donc, face aux Prussiens qui, eux, étudient la guerre, tirent les leçons de la guerre austro-hongroise, tirent les leçons de la guerre de Crimée, etc., etc., eh bien, l'armée française n'est pas préparée. À tel point que le général Michel, un général quelconque qui a été désigné pour commander une brigade à Belfort, arrive à Belfort. Ça, c'est bien déjà. Hein. Mais il ne trouve pas sa brigade à Belfort.
Ah, c'est...
Et
ça, qui non, plus c'est, est, c'est sa brigade ou ses régiments?
Il ne trouve pas sa brigade, trouve pas son état-major, et surtout, il ne trouve pas son régiment. Alors il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il se retourne vers son chef. Mais le problème, c'est qu'il ne trouve pas son chef. Donc il envoie un télégramme à Paris en disant, je ne trouve pas ma brigade, je ne trouve pas mes régiments, je ne trouve pas mon chef, qu'est-ce que je fais? Voyez ce que c'est que l'adaptation.
Ok, alors ça c'est le contexte. Hein. Je pense que les auditeurs ont bien compris que c'était un grand pataquès, la guerre de 1870, mais ça c'est le contexte. Alors peut-être un déroulé rapide, Jean-Luc, pour nos éditeurs, très vite,
pour résumer. Très rapidement, la première phase, sans aller dans le détail après...
Le colonel Ars vous écoute avec attention, en tout cas.
Les Français veulent entrer en Allemagne, c'était l'idée de Napoléon.
Oui.
Et en fait, ils se retrouvent bloqués en Alsace. Et donc c'est ce qu'on appelle la bataille des frontières, avec d'abord la bataille de Forbach, qui est une défaite, la bataille de Frechwiller avec la fameuse charge des cuirassiers le 6 août, le Strasbourg est encerclé le 9, capitule le 28 septembre, Nancy est occupée le 14 août, l'armée de MacMahon, qui était en Alsace, se replie sur le camp de Châlons, pendant que le maréchal Bazaine, lui, s'enferme dans Metz, d'où il ne tente visiblement guère de sortir. Je passe sur les détails de des batailles autour des Metz.
Courageuse, garçon.
Et on aurait pu, pourtant, Bazaine aurait pu prendre l'ascendant sur les Prussiens à ce moment-là. MacMahon, du camp de Châlons, essaie de le rejoindre, mais les Prussiens, pas fous, coupent la liaison entre Metz et le camp de Châlons. Et donc MacMahon se retrouve repoussé vers Sedan, où, au bout d'un certain temps, l'armée française n'arrive plus à faire face aux Prussiens, parce qu'ils sont dominés par les Prussiens. Et Napoléon III décide, au bout d'un certain temps, complètement fatigué, il n'arrivait plus à monter à cheval, il n'arrivait plus à se déplacer tout seul, il décide de capituler.
Le 2 septembre.
Le 2 septembre. Il voulait mourir sur le champ de bataille, il n'y arrive même pas. Et en fait, une première armée capitule. Le 27 octobre, donc un mois, presque deux mois après, Bazaine à Metz rend tous ses drapeaux et capitule totalement.
Donc la guerre se poursuit, mais avec un surcroît de changement de régime.
Bien sûr. À ce moment-là, les Républicains qui sont à l'Assemblée nationale provoquent un changement de régime. L'impératrice fuit la France. Et le 28 janvier, le gouvernement de défense nationale mis en place par les Républicains demande l'armistice par le traité de Francfort qui sera signé le 19 mai 1871. La France alors perd l'Alsace, une partie de la Lorraine, ce qui est aujourd'hui la Moselle, et une partie du sol national est occupée tant qu'une indemnité compensatoire pour la guerre, puisque c'est les méchants français qui ont déclaré la guerre, une indemnité de 5 milliards de francs or n'aura pas été payée.
Donc, une guerre mal préparée, une armée mal commandée, parce que les chefs ne réfléchissent pas, enfin je reprends un peu vos dires, et une armée qui ne s'entraîne pas, une défaite, excusez-moi, mais 70 ans plus tard, ça me rappelle la défaite de 1940.
Oui, si on prend les choses comme ça,
on va pas se faire des amis.
Je suis d'accord avec vous, Arnaud, et c'est pour ça qu'il faut peut-être faire le lien entre les deux. Mais en même temps, 1940, c'est complètement différent.
Alors,
en 1940, l'armée française est beaucoup mieux préparée.
Ah bon ?
Elle est capable de se mobiliser. Il y a certes des lacunes comme le faible appui aérien auprès des troupes au sol. Mmh. On parle surtout d'aviation de bombardement. Il y a des problèmes et des questions sur l'emploi des blindés, avec toute la question, est-ce qu'il faut employer les blindés groupés ou les blindés disséminés en appui des troupes d'infanterie. On sait aussi que pendant la drôle de guerre, les troupes ne sont pas toutes entraînées et formées correctement, et il n'y a pas suffisamment de matériel, mais grosso modo, l'armée française est dans une nettement meilleure préparation qu'en 1870.
Donc,
et ce qui pêche, en fait, en 1940, c'est l'organisation du commandement. Les responsabilités y sont diffuses par la volonté du général en chef, c'est-à-dire le général Gamelin, qui dilue les responsabilités pour ne pas être responsable, mais aussi pour que ses subordonnés ne prennent pas l'ascendant sur lui.
D'accord.
Et ensuite, aussi et surtout, parce que Gamelin s'appuie sur le politique, c'est-à-dire le président du Conseil, c'est-à-dire Daladier.
Daladier. Donc, dans les deux cas, une raclée, mais pas du même ordre. C'est ce que vous êtes en train de nous dire ce soir.
Exactement. Vous avez tout compris, Arnaud. Vraiment, c'est
excellent. J'essaie d'être intelligent avec vous, parce que c'est dur.
Et je vous conseille d'ailleurs, pour approfondir un peu ces sujets, parce qu'on ne va pas rester pendant...
Petite biographie, la bibliographie.
Je vous conseille, pour approfondir ces sujets,
oui.
Deux excellents livres. Le premier, c'est mon camarade Rémi Porte, qui a écrit un petit bouquin chez Perrin, qui s'appelle « 1940, vérités et légendes », qui est un bouquin qui se lit très très vite. « Les Britanniques ont-ils abandonné les Français à Dunkerque ?»
Ah, toujours la fameuse question.
« Fallait-il déclarer Paris ville ouverte ?»
Oui, toutes les questions qu'on se pose encore.
La France manquait-elle de chars et d'avions, etc., ouais. etc., etc. Donc, et tout ça, c'est appuyé sur les archives, c'est appuyé sur des chiffres, ouais. et c'est vraiment excellent. La France pouvait-elle continuer la guerre à partir de la Bretagne ou de l'Afrique du Nord, etc., etc. Le deuxième livre, c'est « Les soldats 1940, une génération sacrifiée mm-hmm. », qui est de Rémi d'Alisson. Donc là, c'est un historien, qui n'est pas un historien militaire, contrairement à Rémi Porte, qui essaie de comprendre pourquoi les combattants de 40 oui. ont une mauvaise image, notamment lorsqu'on pense à
la 7e compagnie. Bah oui.
Et il utilise pour cela le parcours d'une centaine de ces soldats de 1940 et souligne les mécanismes de dénigrement qui sont mis en place dès 1939, en fait, pour asseoir le régime de Vichy.
Après cette longue chronique ce soir, vous ne m'avez pas parlé de Mont Saint-Mère ni de la revue Inflexion. Alors, est-ce que il s'est passé quelque chose avec le confinement ?
Merci.
Arnaud. Ah non, je l'ai pas fait exprès. Il va nous en
je
parler.
Je vous ai pas parlé de Mont Saint-Mère, mais je suis en train de le faire et vous me ferez l'opportunité de vous parler du général de Mont Saint-Mère dans le prochain numéro d'Inflexion, ouais. Qui a pour thème l'échec, où j'explique comment le général de Mont Saint-Mère, à un moment donné, aurait pu faire face à un échec et en prenant une certaine décision. Eh bien, il a fait pencher la bascule. Mais aussi dans le dernier numéro sur la beauté, qui est sorti au mois de mai.
La beauté.
Il y a beaucoup de choses, dont un interview sur ce que c'est que la belle manœuvre. Et dans la belle manœuvre, on voit que les chefs, pour réaliser une belle manœuvre, doivent être formés et doivent vouloir se former en permanence. Et l'auteur interviewé cite l'exemple de la prise de Sienne. Et savez-vous qui est-ce qui a pris Sienne intacte en 1940 sans qu'un seul obus, sans qu'une seule cartouche soit tirée dans Sienne ?
Eh bien non, vous allez me le dire.
C'est le général de Mont Saint-Mère.
Voilà, je voulais
Lisez
vous laisser l'honneur.
Inflexion pour en avoir plus, je vous assure, ça vaut le coup.
Il est formidable ce chroniqueur, je l'aime. Merci Jean-Luc Cottard. Et on va retrouver très très vite notre invité, le colonel Ars.
Des forces et des hommes sur RCF. L'actualité militaire et de la sécurité intérieure sous toutes ses formes. Arnaud Roy.
C'est déjà la fin de notre première partie. Vous avez tenu longtemps. Jean-Luc, pardon,
oui,
j'allais dire
Jean-Luc.
Fabrice.
Moi, c'est Jean-Luc Cotard. Ouais, ouais.
Donc, je vous propose une petite pause musicale. On va écouter Pink Floyd et le superbe titre Run Like to Hell.
RCF à Tours, 100.4. À Blois, 96.4.
Des forces et des hommes sur RCF. Arnaud Roy.
Si vous nous rejoignez, vous êtes avec nous jusqu'à 19h55 dans Des Forces et des Hommes, l'émission d'actualité de débat sur le monde de la défense nationale et de la sécurité intérieure. Ce soir, dans cette deuxième partie d'émission, nous recevons le colonel Fabrice Ars, commandant le groupement départemental de gendarmerie ici en Indre-et-Loire. Mon colonel, bonsoir.
Bonsoir Arnaud, bonsoir Jean-Luc.
Alors, est-ce que ça vous a intéressé ce qu'a dit Jean-Luc sur 1870 ?
Alors, ça m'a plus qu'intéressé, ça m'a passionné, parce que déjà, le Jean-Luc est un... C'est rendre l'histoire vivante, et puis également parce que cette partie d'histoire militaire, finalement, a nourri un petit peu l'histoire contemporaine, donc aussi bien, comme l'a évoqué Jean-Luc, la Deuxième Guerre mondiale, mais également, moi, venant d'une école militaire comme Saint-Cyr, je me retrouve avec certains épisodes ou certaines expressions. Bon, on n'a pas parlé de l'événement de Bazeilles, qu'on vient de commémorer le 31 août dernier, donc la fête des troupes de marine avec... La maison de la dernière cartouche.
Enfin, il paraît qu'il en restait une.
Il paraît que oui, ça va. Là, je vous laisse la responsabilité.
Très rapidement, pour nos auditeurs, la maison de la dernière cartouche, vous pouvez expliquer ?
Oui, donc c'est justement pendant la guerre de 1870, à côté de Sedan, donc dans le village de Bazeilles, un détachement d'infanterie de marine est retranché dans une maison et combat ce qui en fait la gloire et ce qui a fait que cette journée est restée ancrée dans l'histoire des troupes de marine. Combat jusqu'à la dernière cartouche. Voilà, un petit peu comme le... C'est un petit peu le
alors, comme Cameron,
je vais me faire taper par mes camarades marsouins, mais c'est un petit peu comme le Cameron des légionnaires.
Ce qui est intéressant, c'est que cette maison de la dernière cartouche, en fait, Bazeilles, c'était un point très important stratégiquement pour la défense de la place. Et donc ce village a été pris, repris, on l'a laissé aux Prussiens, on l'a repris, je crois que ça va être de l'ordre de 11 fois, pour que ça se termine en combat rapproché dans une maison... avec la dernière cartouche.
Alors, mon colonel, vous avez évoqué, avant de revenir sur votre parcours, vous avez fait Saint-Cyr et de l'actualité de votre groupement. Moi, j'ai une question très simple. Comment s'est passée votre récente installation ici en Indre-et-Loire ?
Écoutez, une installation dans l'Indre-et-Loire ne peut que bien se passer.
Généralement, c'est ce qu'on dit.
Voilà, parce que bon, déjà, c'est une grande chance d'arriver dans ce département, ce magnifique département. Dans le jardin de la France, avec un patrimoine incroyable, avec des traditions qui en font la richesse, avec une population qui est accueillante. Et en plus, moi, donc venant de Paris, après 5 ans en état-major, j'ai été ravi de retrouver également le terrain. L'installation s'est parfaitement bien déroulée.
Alors justement, avant d'arriver en Touraine, vous étiez au cabinet du directeur général de la gendarmerie à Paris, en charge de la modernisation et de la transformation. Pouvez-vous nous expliquer quelle était cette mission ? C'est quoi la modernisation et la transformation au sein de la gendarmerie française ?
Alors, en fait, j'ai été. Cet épisode était une partie de mon passage au cabinet, puisque ensuite j'ai tenu d'autres fonctions pendant la majeure partie du temps. C'est effectivement la première année où je suis arrivé en 2015. Il y avait en gendarmerie un projet qui était mené par le général Denis Favier, directeur général de la gendarmerie à l'époque.
Ancien du GIGN.
Ancien du GIGN, tout à fait. Qui avait lancé un projet qui s'appelait la feuille de route et qui était un grand projet, on peut dire pour le rendre palpable, un grand projet de dépoussiérage de la gendarmerie et de ses process internes, puisque bon, la gendarmerie est une maison qui a 8 siècles d'histoire, qui a donc un héritage important, qui est présente sur l'ensemble du territoire avec plus de 3000 brigades. Donc 3000 brigades, ça se commande un petit peu d'une manière différente. Chaque unité a beaucoup d'autonomie. Mais du coup, les processus à moderniser sont beaucoup plus difficiles puisqu'il faut que la modernisation s'impose depuis l'échelon central jusqu'à la dernière brigade au fin fond du plus isolé des départements, y compris Outre-mer d'ailleurs. Donc je vous laisse imaginer quand il faut moderniser un processus dans la brigade de Camopi en Guyane française. Ça ne se fait pas de la même manière que ça peut se faire en zone périurbaine ou à la gendarmerie de Tours. Donc en fait, cette feuille de route consistait à examiner un petit peu tous les points rouillés, les points de blocage qu'il pouvait y avoir en interne et à y apporter des solutions, si possible, sans grand changement, sans grande réforme.
Bouleversement.
Mais voilà, en essayant de résoudre des problèmes concrets que se posaient les gens du terrain. Donc un exemple tout simple, c'est la dématérialisation d'une grande partie des actes administratifs, donc tout simplement les titres de permission, une institution quand même, les titres de permission. Ce qu'on faisait avant en double exemplaire sur papier, ben maintenant tout se fait par informatique et on économise l'équivalent chaque année d'un semi-remorque de papier.
Alors, on peut lire dans votre CV aussi, juste avant votre passage à la direction générale, que vous avez une expérience internationale assez intéressante, je dois dire. Vous avez été en poste à l'ambassade de France à Madrid en Espagne. Quel était votre rôle, très rapidement?
Alors, j'étais en fait le conseiller sécurité intérieure et le représentant du ministère de l'Intérieur français auprès de l'ambassadeur de France et en charge un petit peu des bonnes relations qui pouvaient exister entre le ministère de l'Intérieur espagnol et l'homologue français. Donc ça allait bien au-delà de la gendarmerie, puisque je m'occupais également de la police, avec un commissaire divisionnaire de police qui était avec moi, et également on s'occupait de la sécurité civile, mais également de l'organisation territoriale, l'équivalent du réseau des préfectures, quel homologue, le droit des étrangers, comment fonctionne l'asile en Espagne, les titres sécurisés d'identité, etc.
Travailler avec la Guardia Civile aussi ?
Exactement, oui, la Guardia Civile, mais pas exclusivement, comme je vous disais. C'était vraiment extrêmement large et c'était une expérience vraiment très enrichissante et passionnante.
Vous passez de la direction générale de la gendarmerie au groupement d'Indre-et-Loire, vous venez d'arriver. Comment se passent vos débuts ici dans le département et quelles impulsions, on pourrait dire au pluriel, quelles impulsions vous voulez donner aux 700 gendarmes que compte le groupement ?
Alors, comment se passe l'arrivée ? L'arrivée se passe dans le bain opérationnel tout de suite, puisque 700 gendarmes, sur l'ensemble du département, on a 268 communes sous notre responsabilité, donc c'est de toute façon de l'activité, c'est d'abord de l'activité. Cette activité, elle est au service des habitants du département, elle est au service de la population, elle est au service des élus, elle est au service de la vie citoyenne au jour le jour. Donc en fait, mon arrivée, elle est dédiée à ça. Elle est dédiée déjà à faire le tour des brigades, à rencontrer les personnels, elle est dédiée aussi à rencontrer les élus, à rencontrer tous ceux qui font que cette vie s'organise. Voilà, donc sous l'autorité, bien sûr, de la préfète du département, mon action, elle est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire, le gendarme est au service de la population. Et pour cela, il faut de la proximité. Et pour de la proximité, il faut aller sur le terrain, il faut connaître les gens.
On va y revenir dans quelques instants sur cette proximité en Indre-et-Loire. Je vous propose une deuxième petite pause musicale avec Brian Ferry et son titre « Kiss and Tell ».
RCF à Loche 105.7. Des forces et des hommes sur RCF, l'actualité militaire et de la sécurité intérieure sous toutes ses formes.
Vous êtes toujours sur RCF dans Des forces et des hommes. Débat ce soir autour de la gendarmerie. Mon colonel, apparemment le Covid semble ne pas être derrière nous en ce moment. Et les derniers chiffres de contamination semblent confirmer une reprise de l'épidémie un peu partout sur le territoire. Vous avez créé récemment, et dans d'autres départements, je crois aussi, les détachements d'appui territoriaux pour aider à ce que les mesures gouvernementales soient appliquées et respectées. En quoi consiste le quotidien de ces unités ad hoc, pardon.
Alors, ces unités ont une première particularité, c'est que ce sont des unités de réservistes. Alors, nous avons la chance en gendarmerie de compter au niveau national sur 30 000 réservistes et 300 au niveau de l'Indre-et-Loire. Et c'est une force incroyable parce qu'ils viennent de la population, ils connaissent la population. Ils sont vraiment l'émanation de l'esprit de défense ou de l'esprit de sécurité intérieure, puisque c'est le thème de l'émission. Et ces détachements d'appui territoriaux sont constitués uniquement de réservistes. Et ces réservistes, on les emploie effectivement sur les zones d'affluence, sur les marchés, sur les gares. On les a employés à l'entrée des collèges, des écoles
tout récemment.
Mmh. Et effectivement, donc pour faire appliquer les mesures de protection liées à la Covid, avec deux maîtres mots, le discernement et la prévention. Puisqu'en fait, on est là, comme je vous le disais, pour accompagner la population. La population traverse avec la Covid un moment difficile. Et le rôle de la gendarmerie, c'est pas d'être contre la population, c'est d'être avec la population.
De l'accompagner.
Et de l'accompagner, et de l'aider à traverser ce moment. Et pour l'aider à traverser ce moment, il faut aussi lui faire prendre conscience que des mesures de sécurité, de protection, de vigilance sont nécessaires.
À un moment, la prévention, elle est faite depuis la fin du confinement. Est-ce qu'il peut y avoir maintenant répression aussi ?
Ah ben, il y a répression quand c'est nécessaire, bien sûr, et sans état d'âme particulier, mais elle ne vient qu'en extrémité, on va dire.
Précisons à nos auditeurs, c'est 135 euros le non-port du masque en ce moment, et s'il y a réitération, je crois, donc au bout de deux ou trois fois, là, ça devient un délit et ça peut être beaucoup plus important.
Tout à fait, voilà, ça, tout à fait.
Donc, voilà, bien expliquer à nos auditeurs.
Voilà. Après, effectivement, l'idée de la gendarmerie, c'est, comme je vous le disais, d'aider la population, d'être à ses côtés. Et c'était un petit peu ce qui a motivé, vous avez peut-être suivi, sur les réseaux sociaux, toutes les publications de la gendarmerie, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, portaient le hashtag « répondre présent ». Et je pense que c'est un bon résumé, en fait, de la position de la gendarmerie pendant cette crise de la Covid. C'est d'être là, voilà, d'être
Alors,
présent.
Justement, comment se place notre département actuellement, vous qui êtes peut-être dans le secret des dieux, comment se place notre département en termes d'évolution de la contamination ?
Alors, là-dessus, j'ai pas d'informations plus que celles que vous devez avoir par les médias, locaux.
Oui. Apparemment, on est pour l'instant un petit peu protégé, mais
pour l'instant,
autour de nous, ça chauffe un peu.
Voilà, je crois que globalement, on a pas à se plaindre par rapport à la Mayenne qui était dans une situation un peu compliquée. Une situation qu'on surveille, mais je n'ai pas d'éléments de plus à vous apporter.
Et si les Tourangeaux ne sont pas des bons élèves, est-ce qu'il y aura plus de verbalisation ? Est-ce que vous donnerez l'ordre de verbaliser plus si vous...
Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que les Tourangeaux sont de bons élèves. c'était vrai que globalement, sur la plupart des opérations qu'on a pu faire de contrôle, et on en a encore fait une cet après-midi qui avait plusieurs objectifs, qui avait également un objectif de lutte contre la consommation de stupéfiants.
On va y revenir tout à l'heure.
Voilà, on a fait une opération à la gare d'Amboise cet après-midi, et effectivement, sur l'ensemble des voyageurs qui ont débarqué à la gare d'Amboise ou qui ont embarqué, il y a eu plusieurs rappels et il y a eu une seule infraction relevée.
Donc c'est à la marge.
Voilà, c'est à la marge. C'est à la marge, c'est rassurant, c'est encourageant, mais voilà, c'est aussi peut-être grâce à la présence de ces réservistes et de ces détachements. Donc ces détachements, pour juste terminer sur ce point, on en a 150 sur l'ensemble du mois de septembre.
Ah oui.
150 patrouilles qui sont mises en place par les réservistes, grâce aux réservistes.
Donc, voilà. Donc les Tourangeaux vont voir pas mal de gendarmes en ce moment.
Alors, pas que les Tourangeaux, l'ensemble des habitants de l'Indre-et-Loire.
Mais les Tourangeaux, c'est l'ensemble de l'Indre-et-Loire.
D'accord.
Voilà, quand on parle des habitants de notre département. Récemment, la presse et les médias ont consacré de nombreux articles au trafic de stupéfiants. Encore récemment, le Figaro titrait samedi sur les problèmes liés au gros trafic de deals. Vous me disiez, c'est pas une nouvelle infraction qui est liée à la consommation, a été créée et doit entrer en application. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette infraction
La consommation, comme la détention, comme le trafic, ce sont des délits. Donc ce sont des infractions qui sont susceptibles de donner lieu à une garde à vue et donner lieu à un déferrement devant les tribunaux
correctionnels
pour être jugé. Là, le principe de cette amende, c'est qu'on va forfaitiser. En gros, on transforme ce qui devait donner lieu à une garde à vue, on le transforme en procès-verbal avec un paiement, donc un montant de 200 euros.
C'est donc une contravention.
Non, ce n'est pas une contravention, puisque en fait, la contravention, c'est l'échelon en dessous du délit.
C'est ça.
Là, on reste sur un délit.
On reste sur un délit.
L'usage de stupéfiants reste un délit, mais il est traité de la même manière, effectivement, qu'une contravention. Pour plus de simplicité, pour plus de rapidité, ça contribue aussi à désengorger les tribunaux, et pour une sanction immédiate sur le terrain, faite directement par les gendarmes ou les policiers qui la constateront.
Est-ce que vos hommes ont déjà sanctionné ?
Alors, pour l'instant, on a fait justement plusieurs contrôles et on a eu une amende qui a été faite de cette manière-là sur le département.
Comment travaille justement la gendarmerie ici en Indre-et-Loire pour œuvrer et endiguer le phénomène de stupéfiants qui ne touche pas que les grandes villes, qui touche aussi les petits bourgs et la ruralité tourangelle ?
Tout à fait. Donc, c'est malheureusement, effectivement, comme vous le soulignez, un fléau qui n'épargne personne. De notre côté, on s'attaque de deux côtés. Sur la consommation, tout d'abord, puisque, en fait, si on lutte contre la consommation, on rend plus compliqué la revente
et le trafic.
Et effectivement, après, sur les gros trafics, puisque là, en fait, on sait qu'il y a des points de deal qui sont assez répandus, notamment en zone périurbaine. Et donc, on a cette double action à la fois de voie publique, qui est une action de prévention, de dissuasion, de répression avec par le biais de cette amende, mais aussi avec le concours du parquet, enfin sous le contrôle du parquet, les gardes à vue qu'on peut prendre dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, mais également toute l'action judiciaire
donc
et d'enquête,
vraiment
les enquêtes qu'on peut mener pour lutter contre les trafics.
Vous avez des résultats ?
On a des résultats, on a des résultats. Il y a eu récemment, courant juillet, une belle enquête qui a abouti du côté de Chinon, avec la saisie d'une cinquantaine de grammes d'héroïne, notamment. Donc, ce qui est quand même assez inquiétant de voir une drogue aussi puissante que l'héroïne, aussi dure que l'héroïne, dans des endroits qu'on pourrait imaginer préserver.
Alors, pour vous, mon colonel, quelles sont vos priorités opérationnelles dans les semaines à venir, justement, dans le groupement d'Indre-et-Loire ?
Alors, la priorité opérationnelle, dans l'immédiat, la première priorité opérationnelle, c'est la proximité, comme je vous le disais en ouverture, parce que, justement, on sert bien un terrain qu'on connaît. La proximité passe par le contact avec la population, et passe par le contact avec les élus, et passe par une présence un peu plus forte sur les réseaux sociaux également. Puisque maintenant, c'est un nouveau moyen de communication.
Votre page Facebook, normalement, est toujours la page Facebook en Indre-et-Loire la plus visitée, je crois.
Oui, on est à plus de 28 000 abonnés. C'est une page Facebook qui est très active. Donc, on s'en réjouit. Et puis là, on essaye de relancer également le compte Twitter, qui était un petit peu à l'abandon. On développe...
Donc, les outils numériques, c'est important.
Tout à fait, puisque c'est un élément de proximité également. On parle de proximité numérique. C'est pas un hasard.
Alors, ici, en Indre-et-Loire, on a 3 autoroutes, des départementales. En matière de sécurité routière, est-ce que vous avez des priorités ? Et comment se place justement notre département en matière de délinquance de la route ?
Alors, il faut toujours rester extrêmement humble sur le sujet de la sécurité routière, puisque, en fait, ce qui est vrai à un instant T peut être totalement contredit dès le lendemain. Pour la sécurité routière, je prends vraiment beaucoup de précautions. Pour l'instant, le bilan du département est plutôt bon. Il faut considérer aussi qu'on a eu les mois de confinement qui ont joué. Après, la priorité, elle est très nette là-dessus. C'est vraiment là, on est plus, effectivement, autant on est sur la prévention, beaucoup d'autres sujets, autant là, on est très ferme sur la répression, et notamment la répression de tout ce qui est délit routier, de consommation d'alcool au volant.
Et de stupéfiants,
bien sûr. Puisque, en fait, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou la consommation de stupéfiants pour un conducteur ne peut pas être forfaitisée. On reste sur un délit, un traitement normal avec une garde à vue. Donc, ça montre bien la priorité qui est donnée aussi là-dessus. Les excès de vitesse.
De grande vitesse, bien sûr.
Et puis ensuite, tout le respect des règles de circulation en agglomération.
Jean-Luc ?
Là, vous venez de parler de drogue, vous venez de parler de proximité. Est-ce que le terrorisme vous touche, vous, ici, sur le département de l'Indre-et-Loire, dans votre zone de compétence?
Alors, qui peut se juger à l'abri, en fait, du terrorisme? Est-ce que vous vous souvenez où s'est passé un des premiers actes terroristes dans les années 2000? Il s'est passé au commissariat de Joué-lès-Tours.
En 2014.
Voilà, en 2014. Donc, on ne peut pas s'imaginer à l'abri. De toute façon, donc on est extrêmement vigilant là-dessus. On s'est organisé suite aux événements de 2015. Toute la gendarmerie s'est organisée pour faire face dans un délai bref. Ça aboutit à la création de l'antenne GIGN de Tours. Ça aboutit aussi à un équipement particulier dont ont été dotés les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, et notamment celui d'Amboise, qui est un PSIG sabre, dit sabre. Et on peut compter également sur...
C'est quoi un PSIG sabre?
Alors, dans chaque compagnie, puisque le groupement qui a compétence sur l'ensemble du département est divisé en compagnies, donc quatre compagnies ici à Chinon, Loche, Tours et Amboise, chaque compagnie est dotée d'un peloton de surveillance et d'intervention qui est un petit peu l'unité, la force de frappe du commandant de compagnie, son unité qui va faire les patrouilles la nuit, qui peut faire des opérations d'interpellation. Voilà, ce sont à la fois ses yeux et son bras armé. Pour appuyer l'action des unités territoriales, des brigades de gendarmerie. Et on a transformé un petit peu certains de ces pelotons en leur amenant une dotation complémentaire en moyens de projection de véhicules, en moyens d'armement, donc avec des armes
d'assaut
plus puissantes, avec des moyens de visée, des moyens de vision nocturne, et également des moyens de protection particulière qui permettent de faire une première intervention dans le cas d'une action terroriste. Donc vraiment de se projeter immédiatement, puisqu'on a bien vu que c'est l'action des premiers instants, c'est l'action du commissaire de police au Bataclan et de son chauffeur qui font cesser la tuerie. C'est l'action des premiers gendarmes du PSIG qui rentrent avec le colonel Beltrame qui font cesser la tuerie également dans le super-U de Trèbes. Donc c'est vraiment cette première action qui est importante, et pour cette première action, on a pris les précautions et les moyens. On a mis les moyens pour permettre d'agir.
Donc il y a un PSIG et le PSIG sabre est un PSIG renforcé.
Exactement. Et donc, avec les mêmes missions, qui conservent les mêmes missions, mais qui disposent de moyens complémentaires qui lui permettent de faire face dans les meilleures conditions.
Mais il y a un PSIG sabre par groupement ou...
Il peut y en avoir plusieurs. Tout dépend, en fait, il y a un schéma national qui organise cela, et tout dépend de l'emplacement des autres unités qui sont en mesure de faire face. Donc ici, à Tours, on a l'antenne GIGN, on a l'escadron de Joué-lès-Tours. Du côté de Chinon, on a le peloton de surveillance de la centrale de Chinon qui, lui aussi, dispose de moyens de se projeter et d'intervenir. Donc, en fait, on avait la partie est du département qui était dégarnie, et c'est pour ça qu'on a créé ce PSIG sabre à Amboise.
On va bientôt conclure, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la population en tant que colonel de gendarmerie du groupement d'Indre-et-Loire? Un message important?
Oui, alors un message important, je vais vous citer une phrase que cite souvent le général Rodriguez, qui est le directeur général de la gendarmerie actuellement, et qui dit que être gendarme, c'est d'abord et avant tout aimer les gens. Et je pense que tout est dans cette phrase, parce que on a vraiment l'ensemble des missions de la gendarmerie dedans. On a la présence au cœur des territoires, on a le statut militaire qui fait qu'on est dévoué à la population, dévoué à sa protection, à sa sécurité. On a le fait que le gendarme soit un soldat de la loi, qu'il soit là pour protéger aussi et pour assurer la sécurité de l'ensemble de la population.
Eh bien, mon colonel, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci Jean-Luc pour ta chronique fort sympathique. Toujours un bonheur de t'avoir à nos côtés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le mardi 13 octobre. On ne connaît pas encore notre invité, mais on a déjà une petite idée. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur www.rcf.fr. Je vous souhaite d'excellents moments sur notre radio. Au revoir.